Chapitre 3. Le message. Quand la souffrance est ce que l'on connaît le mieux, y renoncer est une épreuve. Michela Marzano. Boston. Quartier de Beacon Hill. 20h. Maman ne va pas revenir, hein, papa ? Demanda Émilie en boutonnant son pyjama. Non. Elle ne reviendra jamais, confirma Matthew en prenant sa fille dans ses bras. Ce n'est pas juste, se plaignit la gamine d'une voix tremblante. Non, ce n'est pas juste. La vie est comme ça parfois, répondit-il abruptement en la hissant sur son lit. La petite pièce mansardée était chaleureuse et accueillante, et elle évitait les tons mièvres ou pastels qu'on trouvait trop souvent dans les chambres d'enfants. Lorsque Matthew et Kate avaient restauré la maison, ils avaient cherché à restituer pour chaque pièce le cachet d'origine. Pour celle-ci, ils avaient abattu une cloison, décapé et ciré le vieux parquet pour lui redonner son lustre ancien et chiné des meubles d'époque. Lit en bois brut, commode cérusée, fauteuil habillé de chanvre, cheval à bascule, coffre à jouer en cuir et en laiton. Matthew caressa la joue d'Émilie en lui adressant un regard qu'il espérait rassurant. Tu veux que je te lise une histoire, chérie ? Les yeux baissés, elle secoua la tête tristement. Non, ça va. Il grimaça. Depuis quelques semaines, il sentait sa fille très angoissée, comme s'il lui avait transmis son propre stress et cette constatation le culpabilisait. Devant elle, il s'employait pourtant à masquer sa peine et son angoisse, mais ça ne fonctionnait pas. Les enfants avaient un sixième sens pour détecter ce genre de choses. Matthew avait beau se raisonner, il était tout entier dévoré par une inquiétude. La peur irrationnelle de perdre sa fille après avoir perdu sa femme. Il était désormais convaincu que le danger était partout et cette crainte le conduisait à surprotéger Émilie au risque de l'étouffer et de lui faire perdre sa confiance en elle. La vérité, c'est qu'il était un père dépassé. Dans les premières semaines, il avait été déstabilisé par la quasi-indifférence affichée par Émilie. À l'époque, l'enfant semblait imperméable à la douleur, comme si elle ne comprenait pas vraiment que sa mère était morte. À l'hôpital, la psychologue qui suivait la petite fille avait toutefois expliqué à Matthew que ce comportement n'était pas anormal. Pour se protéger, certains enfants gardaient volontairement à distance un événement traumatique, attendant inconsciemment de se sentir plus solide pour pouvoir s'y confronter. Les questions sur la mort étaient venues plus tard. Pendant quelques mois, Matthew avait fait face en s'aidant des conseils de la psy, d'albums dessinés et de métaphores. Mais les interrogations d'Émilie se faisaient désormais plus concrètes, plongeant son père dans l'embarras et le poussant dans ses retranchements. Comment une enfant de 4 ans et demi se représente-t-elle la mort? Il ne savait pas quel vocabulaire utiliser, n'était pas certain des mots qu'elle était en âge de comprendre. La psychologue lui avait conseillé de ne pas s'inquiéter, lui expliquant qu'en grandissant, Émilie prendrait davantage conscience du caractère définitif de la disparition de sa mère. D'après elle, ses interrogations étaient saines. Elles permettaient de sortir du silence, d'éviter les tabous et, à terme, de se libérer de la peur. Mais Émilie était visiblement loin d'avoir atteint cette phase libératrice. Au contraire, tous les soirs, à l'heure du coucher, elle ressassait les mêmes angoisses et les mêmes questions aux réponses douloureuses. Allez, au lit. Pensive, la petite fille se glissa sous la couverture. Grand-mère dit que maman est au ciel, commença-t-elle. Maman n'est pas au ciel. Grand-mère dit des bêtises, la coupa Matthew en maudissant sa mère. Kate n'avait pas de famille. Lui s'était éloigné très tôt de ses parents, deux égoïstes qui passaient une retraite tranquille à Miami et qui n'avaient pas pris la mesure de son chagrin. Il n'avait jamais vraiment aimé Kate, lui reprochant de faire passer sa carrière avant sa famille. Un comble pour des parents qui n'avaient jamais pensé qu'à eux-mêmes. Le premier mois qui avait suivi la disparition de Kate, ils étaient bien venus à Boston pour le soutenir et s'occuper d'Émilie, mais cette sollicitude n'avait pas duré. Désormais, ils se contentaient de téléphoner une fois par semaine pour prendre des nouvelles et pour raconter ce genre d'ineptie à leur petite fille. Ça le mettait hors de lui. Il n'était pas question qu'il accepte l'hypocrisie de la religion. Il ne croyait pas en Dieu, n'y avait jamais cru et ce n'était pas la mort de sa femme qui allait changer les choses. Pour lui, être philosophe impliquait une forme d'athéisme et c'était une vision qu'il partageait avec Kate. La mort marquait la fin de tout. Il n'y avait rien d'autre, pas d'après, juste le vide, le néant total et absolu. Il lui était inconcevable, même pour rassurer sa fille, de la bercer d'une illusion à laquelle il n'adhérait pas. « Si elle n'est pas au ciel, elle est où alors ?» insista l'enfant. « Son corps est au cimetière, tu le sais bien. Mais son amour, lui, n'est pas mort, » concéda-t-il. « Il est toujours dans nos cœurs et dans notre mémoire. On peut continuer à entretenir son souvenir en parlant d'elle, en se rappelant les bons moments passés ensemble, en regardant des photos et en allant nous recueillir sur sa tombe. » Emily hocha la tête, loin d'être convaincue. « Tu vas mourir, toi aussi, n'est-ce pas ?»« Comme tout le monde, » admit-il. « Mais si tu meurs, qui s'occupera de moi ?» paniqua-t-elle. Il la serra très fort dans ses bras. « Je ne vais pas mourir demain, chérie. Je ne vais pas mourir avant 100 ans, je te le promets. »« Je te le promets, » répéta-t-il en sachant pourtant très bien que cette promesse ne reposait que sur du vent. Le câlin se prolongea encore quelques minutes. Puis Matthew borda Emily et éteignit les lumières, à l'exception de la veilleuse suspendue au-dessus du lit. Avant d'entrebâiller la porte, il embrassa une dernière fois sa fille en lui promettant qu'April passerait lui dire bonne nuit. Matthew descendit l'escalier qui débouchait dans le salon. Le rez-de-chaussée de la demeure baignait dans une lumière tamisée. Il vivait depuis 3 ans dans cette maison de briques rouges à l'angle de Mount Vernon Street et de Willow Street. Une jolie townhouse à la porte blanche massive et au volet en bois sombre, dont la vue donnait sur Louisburg Square. Il se pencha à la fenêtre et observa les guirlandes électriques qui clignotaient, accrochées aux grilles du parc. Toute sa vie, Kate avait rêvé d'habiter dans le cœur historique de Boston. Une petite enclave préservée, avec ses maisons victoriennes, ses trottoirs pavés et ses ruelles fleuries bordées d'arbres et d'antiques lampadaires à gaz. Un endroit magique qui donnait l'impression que le temps s'était arrêté, figeant les demeures dans un charme chic et désuet. Un cadre de vie qui n'était pas à la portée de la bourse d'un médecin exerçant en hôpital universitaire et d'un prof de fac qui venait à peine de solder le remboursement de son prêt étudiant. Mais il en fallait davantage pour décourager Kate. Pendant des mois, elle avait parcouru les commerces du quartier, placardant partout des affichettes. Alors qu'elle s'apprêtait à déménager en maison de retraite, une vieille dame était tombée sur son annonce. Cette riche bostonienne détestait les agents immobiliers et préférait vendre, de particulier à particulier, la maison dans laquelle elle avait passé toute sa vie. Kate avait dû lui plaire, car elle avait miraculeusement accepté de revoir son prix à la baisse, assortissant néanmoins son offre d'un ultimatum. Ils avaient eu 24 heures pour se décider. Même avec un important rabais, la somme restait conséquente. C'était l'engagement d'une vie, mais portés par leur amour et leur foi en l'avenir, Matthew et Kate avaient franchi le pas, s'étaient endettés pour 30 ans et avaient passé tout leur week-end le nez dans le plâtre et la peinture. Eux qui n'avaient jamais bricolé de leur vie étaient devenus des spécialistes de la plomberie, de la restauration du parquet et du montage de circuits électriques encastrés. Kate et lui avaient développé un rapport presque charnel avec la vieille demeure. Leur domicile était leur abri intime, là où ils avaient prévu d'élever leurs enfants, là où ils avaient envisagé de vieillir. « A shelter from the storm », comme le chantait Bob Dylan. Mais à présent que Kate était morte, quel était le sens de tout cela? L'endroit était lourd de souvenirs encore à vif. Les meubles, la décoration et même certaines odeurs qui continuaient à flotter dans l'air, bougies parfumées, peaux pourries, bâtonnets d'encens, était rattaché à la personnalité de Kate. Tout cela donnait sans cesse à Matthew l'impression que sa femme hantait la maison. Malgré ça, il ne s'était senti ni la volonté ni le courage de déménager. Dans cette période d'instabilité, la townhouse constituait l'un de ses derniers repères. Mais seule une partie de la maison était figée dans le souvenir. Le dernier étage était aujourd'hui égayé par la présence d'April, qui louait une belle chambre, une salle de bain, un grand dressing et un petit bureau. À l'étage du dessous se trouvait la propre chambre de Matthew, celle d'Emily et celle de l'enfant qu'ils avaient prévu d'avoir très bientôt avec Kate. Quant au rez-de-chaussée, il était aménagé comme un loft avec un grand salon et une cuisine ouverte. Matthew sortit de sa torpeur et cligna plusieurs fois des yeux pour chasser ses pensées douloureuses. Il passa dans la cuisine, le lieu où ils aimaient tant, autrefois, prendre leur petit déjeuner et se retrouver le soir pour se raconter leur journée, attablés côte à côte, derrière le comptoir. Du frigo, il sortit un pack de bière blonde. Il décapsula une bouteille et prit une nouvelle barrette d'anxiolytique qu'il fit passer avec une lampée d'alcool. Le cocktail Corona Médoc. Il ne connaissait pas de meilleur remède pour s'abrutir et trouver rapidement le sommeil. « Hé, beau gosse, fais attention avec ce genre de mélange, ça peut être dangereux !» l'interpella April en descendant l'escalier. Elle s'était changée pour sortir, et comme à son habitude, elle était somptueuse. Chaussée sur des talons vertigineux, elle arborait avec un naturel déconcertant un ensemble excentrique, mais chic, à tendance fétichiste. Haut transparent à liseré bordeaux, short en cuir verni, collants opaques et cardigan sombre aux manches cloutées. Elle avait noué ses cheveux en chignon, mis un fond de teint nacré qui faisait ressortir son rouge à lèvres couleur sang. « Tu ne veux pas m'accompagner ? Je vais au Gunshot, le nouveau pub près des quais. Leur tête de porc en friture est une vraie tuerie, et leur mojito, je ne t'en parle même pas. En ce moment, c'est là que sortent les plus belles filles de la ville. » Et Emily, je la laisse seule dans sa chambre ? April balaya l'objection. On peut demander à la fille des voisins. Elle ne se fait jamais prier pour jouer les babysitters. Matthew secoua la tête. Je n'ai pas envie que ma gosse de 4 ans et demi se réveille dans une heure après un cauchemar pour découvrir que son père l'a abandonnée pour aller boire des mojitos dans un bar pour lesbiennes satanistes. Agacé, April réajusta son long bracelet manchette griffé d'arabesques pourpres. « Le Gunshot n'est pas un bar pour lesbiennes, » s'énerva-t-elle. « Et puis, je suis sérieuse, Matt. Ça te ferait du bien de sortir, de voir du monde, d'essayer de nouveau de plaire aux femmes, de faire l'amour. Mais comment veux-tu que je retombe amoureux ? Ma femme, je ne te parle pas de sentiments, » coupa-t-elle. « Je te parle de baises, de corps à corps, d'allégresse, de plaisir d'essence. Je peux te présenter des copines, des filles ouvertes qui ne cherchent qu'à s'amuser un peu. » Il la regarda comme une étrangère. « Très bien, je n'insiste pas, » dit-elle en boutonnant son cardigan. « Mais tu ne t'es jamais demandé ce que Kate penserait ?»« Je ne comprends pas. » »« Si elle pouvait te voir de là-haut, qu'est-ce qu'elle penserait de ton comportement ?»« Il n'y a pas de là-haut. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. » Elle réfuta l'argument. « Peu importe, je vais te dire ce qu'elle penserait, moi. Elle aimerait te voir avancer, elle aimerait que tu te secoues, que tu te donnes au moins une chance de retrouver le goût de vivre. » Il sentit monter la colère en lui. « Comment peux-tu parler en son nom ? Tu ne la connaissais pas. Tu ne l'as même jamais rencontrée. » « C'est vrai, » admit April. « Mais je pense que d'une certaine façon, tu te complais dans la douleur et que tu l'entretiens. Car ta douleur est le dernier lien qui te rattache encore à Kate et arrête avec ta psychologie de magazine féminin, » s'emporta-t-il. Vexée, elle ne prit pas la peine de lui répondre et sortit en claquant la porte derrière elle. Resté seul, Matthew trouva refuge sur son canapé. Il but au goulot une bouteille de bière, puis il s'allongea et se massa les paupières. Bordel. Il n'avait aucune envie de refaire l'amour, aucune envie de caresser un autre corps ou d'embrasser un autre visage. Il avait besoin d'être seul. Il ne cherchait personne pour le comprendre, personne pour le consoler. Il voulait juste cuver sa douleur, avec pour seul compagnon son fidèle tube de médoc, et sa chère Corona. Dès qu'il ferma les yeux, les images défilèrent dans sa tête comme un film qu'il avait déjà visionné des centaines de fois. La nuit du 24 au 25 décembre 2010. Ce soir-là, Kate était de garde jusqu'à 21h au Children's Hospital de Jamaica Plain, l'annexe du MGH, le grand hôpital universitaire de Boston spécialisé en pédiatrie. Kate l'avait appelé à la fin de son service.
« Ma voiture est encore en rade sur le parking de l'hôpital, chérie. Comme toujours, c'est toi qui avais raison. Il faut vraiment que je me débarrasse de cette guimbarde. »«
Je te l'ai dit 1000 fois. »«
Mais j'y suis tellement attaché à ce vieux coupé Mazda. Tu sais que c'est la première voiture que j'ai pu me payer lorsque j'étais étudiante. » »«
C'était dans les années 1990, mon cœur. Et à l'époque, c'était déjà une seconde main. »«
Je vais essayer d'attraper un métro. »«
Tu plaisantes.
Dans le coin, à cette heure-ci, c'est trop dangereux. Je prends ma moto et je viens te chercher.
Non, il fait vraiment très froid. Il tombe un mélange de pluie et de neige, c'est pas prudent, Matt.
Comme il insistait, elle avait fini par céder.
D'accord, mais fais attention alors.
Ses dernières paroles avant de raccrocher. Matthew avait enfourché sa Triomphe. Alors qu'il venait de quitter Beacon Hill, Kate avait dû réussir à faire démarrer le moteur de la petite Mazda. Car à 21h07, un camion qui livrait de la farine dans les boulangeries du centre-ville l'avait percuté de plein fouet alors qu'elle sortait du parking de l'hôpital. Propulsée contre le mur d'enceinte, la voiture avait fait un tonneau avant d'atterrir sur le toit. Malheureusement, le camion s'était renversé à son tour sur le trottoir, écrasant de tout son poids le véhicule. Lorsque Matthew était arrivé à l'hôpital, les pompiers s'activaient pour essayer de désincarcérer le corps de Kate, prisonnier d'un piège de tôle compressée. Il avait fallu plus d'une heure au secours pour l'évacuer sur le MGH, où elle était décédée dans la nuit des suites de ses blessures. Le chauffeur du camion s'en était sorti indemne. Les analyses toxicologiques que l'on avait pratiquées sur lui après l'accident s'étaient révélées positives au cannabis. Mais lors de son audition par la police, il avait affirmé que Kate était en train de téléphoner au moment de la collision et qu'elle n'avait pas respecté sa priorité. Une version qui avait été corroborée par la caméra de surveillance installée à l'entrée du parking. Matt ouvrit les yeux et se redressa. Il ne devait pas se laisser aller. Il devait faire face pour Emily. Il se leva et chercha une occupation. Corriger des copies? Regarder un match de basket à la télé? Puis ses yeux se posèrent sur le grand sac qui contenait l'ordinateur d'occasion qu'il avait acheté quelques heures plus tôt. Il s'installa sur le comptoir en bois de la cuisine, déballa l'ordinateur de son carton et le brancha sur le secteur en observant une nouvelle fois l'étrange coque en aluminium habillée du sticker représentant Ève et la pomme. Il ouvrit la machine et trouva un post-it collé sur l'écran. Le type du vide-grenier avait pris soin de lui laisser le code d'accès du compte administrateur. Matthew alluma le portable et tapa le mot de passe pour accéder à l'écran d'accueil. À première vue, tout était normal. Bureau, fond d'écran, icône familière du Mac. Il entra ses propres identifiants pour se connecter à Internet et pendant quelques minutes, fureta dans les programmes pour s'assurer qu'il parvenait à ouvrir toutes les applications. Traitement de texte, navigateur, messagerie, gestionnaire d'images. En lançant ce dernier logiciel, il eut la surprise de tomber sur une série de photographies. Étrange. Le vendeur lui avait pourtant assuré avoir formaté le disque dur. Il appuya sur une touche du clavier pour lancer la dizaine de clichés dans un diaporama. C'était un album de vacances présentant des vues de cartes postales. Une mer couleur turquoise, des planches de surf plantées à la verticale dans le sable blanc, un homme et une femme, enlacés, qui immortalisaient leur image dans la lumière magique du soleil couchant. Hawaï? Les Bahamas? Les Maldives? Se demanda-t-il en imaginant le fracas des vagues et la sensation du vent dans les cheveux. À la mer succéda la verdure lorsqu'apparurent des paysages vallonnés, des châteaux, des vignobles, la place d'un petit village. La France ou la Toscane, paria-t-il. Intrigué par sa découverte, il arrêta la projection et cliqua sur chacune des photos pour afficher davantage d'informations. Outre leurs caractéristiques techniques, chacune d'entre elles portait la mention « prise par emma.lovenstein@imperatornyc.com ». Emma Lovenstein. Il fit immédiatement le rapprochement avec la signature apparaissant en bas de l'illustration qui ornait la coque de l'ordinateur. Emma L. Manifestement, l'ancienne propriétaire de l'ordinateur. À l'aide du pavé tactile, il sélectionna tous les clichés et les fit glisser vers la corbeille pour les supprimer. Au moment de valider définitivement l'opération, il eut un léger doute et, par acquis de conscience, rédigea un bref courrier. De Matthew Shapiro à Emma Lovenstein. Objet, photo. Bonsoir, Mademoiselle Lovenstein. Je suis le nouveau propriétaire de votre MacBook. Il reste quelques photos dans le disque dur de votre ancien ordinateur. Voulez-vous que je vous les fasse parvenir ou puis-je les effacer? Dites-moi. Bien à vous, Matthew Shapiro.